Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Euroinfo sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Camille Morillon, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi aujourd'hui dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de seconde à Lucie Aubrac. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la ville en nous appuyant sur un exemple général de Paris. Au programme aujourd'hui pour en parler, nous écouterons la chronique concernant les JO qui sera présentée par Martin Waterloo. Nous finirons ensuite cette émission avec une interview avec notre journaliste Lily Leclerc et un agent immobilier, Ethan Pollack. C'est parti pour Euroinfo. Avant de laisser la parole à Martin, nous avons interrogé quelques passants sur la place des Vosges sur la question « Que représente la ville pour vous ?» Voici leur réponse.
Qu'est-ce que la ville pour moi ? C'est une question très difficile. J'adore la ville, moi je suis vraiment une citadine, j'adore Paris. Et la ville, c'est la vie pour moi. Ça représente la vie avec toutes ses composantes, avec les décors, les immeubles, les jardins. Et puis toute cette vie qui foisonne, une ville comme Paris. Mais on rencontre toutes sortes de gens qu'on ne connaît pas. On peut parler avec ces gens-là, s'ouvrir à eux.
Alors, je n'habite pas Paris, donc je ne peux pas dire ce que ça représente pour un Parisien. En revanche, je suis venue à Paris pour avoir accès à de la culture, à grand niveau, Art Basel Paris, qui se tient en ce moment, les galeries, etc. Ce qu'on ne peut pas trouver en province, ou beaucoup moins en tout état de cause.
La ville, pour moi, c'est un endroit où les gens habitent, la communauté, un lieu où on a accès à toutes les ressources.
C'est un espace plutôt important, puisque c'est aussi un espace de travail pour la plupart des personnes, un lieu scolaire, pour vous par exemple.
La ville, c'est flâner aussi, là, la maison de Victor Hugo, il y a un tote bag justement, où errer est naturel, et flâner, c'est parisien, voilà.
La lumière, les rencontres, la fête, et plein de possibilités.
Ça représente vraiment une forme d'évasion parce qu'on peut retrouver plein d'activités là-bas comme le cinéma, des magasins pour faire du shopping et c'est vraiment un lieu de rencontre.
Merci aux personnes qui ont accepté de nous répondre. Notre chroniqueur Martin Waterloo s'installe en studio. Comment vas-tu Martin ?
Très bien et vous ?
Très bien, merci. Aujourd'hui tu viens nous parler des JO de Paris 2024.
Les Jeux Olympiques de Paris ont été un grand événement immanquable cette année 2024. Cet événement s'est décomposé en deux parties majeures, la cérémonie d'ouverture des JO et les épreuves des JO. Nous avons moins entendu parler de la cérémonie des clôtures de JO.
À quoi sert l'ouverture des JO à l'échelle du pays hôte ?
L'ouverture des JO est un événement qui permet au pays hôte de montrer sa culture et sa puissance. Par exemple, à l'ouverture des JO de Paris 2024, l'anneau flamme de la montgolfière de Paris 2024, créé par Mathieu Lehaneur, et sponsorisé par EDF, montre la puissance technologique et chimique de la France. De même, le passage des danseurs sur scène montre la liberté d'expression des Français et Françaises.
Combien ont coûté ces JO ?
La ville de Paris a investi, au lieu des 6,2 milliards d'euros prédits, près de 9 milliards d'euros dans la sécurité et les infrastructures des JO de 2024. Par exemple, à l'occasion de ces JO, plusieurs monuments historiques ont été modifiés, comme le stade de la Tour Eiffel, le Grand Palais, les Invalides et la place de la Concorde. Cependant, malgré cette dépense élevée, les JO ont quand même eu un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros, soit 2,6% du PIB français.
Les JO de Paris ont-ils eu des défauts ?
Malheureusement, dans l'ombre de ces agréables JO, différentes actions ont été appliquées. Par exemple, l'exclusion des sans-abri et migrants ont été sans aucun doute l'un des majeurs problèmes de ces JO. Pour ne montrer que l'aspect riche et puissant de Paris, plus de 12 000 personnes ont été dispersées en dehors de l'Île-de-France pour les JO.
Merci beaucoup Martin. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale sur l'iconique fleuve qui traverse la capitale.
Ouais, regarde.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La Seine, la Seine, la Seine. Extra lucide.
quand l'ange est sûr. La seule, la seule, la seule. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça.
D'écouter La scène de M et Vanessa Paradis. L'émission Euroinfo continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Lily Leclerc.
Bonjour Camille.
Bonjour Lily. Vous recevez aujourd'hui Ethan Polak.
Bonjour Camille.
Bonjour Ethan. Vous allez nous parler de l'immobilier à Paris et de l'architecture.
Bonjour, bienvenue sur Paris pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons Ethan, agent immobilier chez Barnes Immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Bonjour Ethan.
Bonjour Lily.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci. Et vous ?
Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions par rapport à votre secteur d'activité. Pourquoi avez-vous choisi Paris ?
Le secteur parisien est un avantage pour nous, nos acheteurs et nos loueurs, puisque nous avons plus de personnes et un plus gros chiffre d'affaires par rapport à d'autres villes.
Ok, très bien. Vendez-vous le même type d'habitation pour tout type de personnes ou avez-vous une clientèle particulière ?
Nous avons tout type de personnes, allant de la classe moyenne à la plus bourgeoise, surtout dans le 16e arrondissement. La plupart du temps, nous avons des personnes aisées dans notre agence. Elles sont surtout là pour acheter des appartements, alors que les autres sont surtout là pour louer des appartements.
Comparé à l'agence IMAX à Courbevoie, quel est en moyenne le chiffre d'affaires de votre entreprise ?
Il me semble qu'à l'agence IMAX qui se trouve à Courbevoie, ils font environ 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre agence fait plus. Nous tournons aux alentours de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
Que pensez-vous des prix de vente des habitations que vous vendez, ou même dans le secteur parisien ?
Prenons le même exemple de la ville de Courbevoie. Là-bas, le prix moyen au mètre carré est de 6700 euros, alors que dans le 16e, le prix moyen est de 11 200 euros. Il est donc plus élevé.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de journée.
Au revoir.
C'est la fin de notre émission Euroinfo. Merci à notre journaliste Lily Leclerc, notre chroniqueur Martin Waterloo et notre invité Ethan Polak. Merci également à Ethan S. pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Comme à la maison, un podcast réalisé par les élèves de la classe média du lycée Lucie Aubrac.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Antonin Xiong, votre présentateur. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la notion du chez-soi. Qu'est-ce qu'une maison ? Comment pouvons-nous la définir ? Que représente-t-elle pour nous ? Pour répondre à ces questions, nous écouterons Cérine, célèbre chroniqueuse, aussi autrice du livre « Comment se sentir chez soi » aux éditions Gallimard. Bonjour Cérine.
Bonjour.
Mais d'abord, nous recevrons Casey, chef étoilé d'origine philippine. À la fin, nous parlerons du livre écrit par Cérine, qui a passé avant-hier la barre symbolique des 3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Félicitations, au fait.
Merci.
D'abord, voici quelques micro-trottoirs. Donc, madame, pour vous, qu'est-ce que ça représente, la maison ?
Bon, la maison, c'est un lieu pour partager avec la famille. un lieu de rencontre avec aussi les amis.
C'est mon intime, c'est moi, ce sont mes idées, c'est tout mon univers.
La tranquillité, la sécurité, le bonheur, la paix.
Mais aussi la maison existe, c'est quelque chose de soi, quoi. Quelque chose qui existe n'importe quel pays, n'importe où, c'est de soi.
Tout de suite, nous passons à l'interview du jour. Bonjour Casey.
Bonjour.
C'est quoi votre métier ?
Je suis propriétaire du restaurant Just Like Home.
Parlez-nous de votre restaurant.
Alors, Just Like Home est un restaurant que j'ai ouvert il y a 8 ans. Il est spécialisé dans la nourriture des Philippines et se situe au 13 rue du Bas de la Mule, à Paris.
Pourquoi avoir ouvert un restaurant ? Par passion ?
J'ai ouvert mon restaurant par amour pour la cuisine. En effet, j'ai toujours aimé cuisiner depuis mon enfance. C'est une sorte de tradition dans ma famille.
Est-ce que votre métier est dur ?
Je ne trouve pas que mon métier est dur. Je pense seulement qu'il faut aimer rencontrer des gens nouveaux pour pouvoir le faire.
Et vous aimez votre métier ?
J'adore mon métier. Pour moi, rencontrer des gens nouveaux est toujours une bonne expérience. De plus, je peux exercer ma plus grande passion.
Le thème de votre restaurant est le chez-soi. Comment les clients le ressentent ?
Ils le ressentent par la nourriture, par l'effort et l'amour fourni pour la préparer. Chez Just Like Home, l'intérieur est chaleureux et accueillant. Les fournitures sont choisies avec soin pour rappeler la maison. Par exemple, le sinigang, notre plat principal, rappelle les Philippines par ses saveurs acidulées et réconfortantes. Il évoque le confort des repas en famille et offre à nos clients un vrai goût de chez eux, peu importe où ils se trouvent.
Pourquoi ce thème ?
J'ai choisi ce thème pour les Philippins ayant le mal du pays et qui veulent se sentir à la maison, aux Philippines. Le menu est composé de plats traditionnels philippins, certes simples, mais qui apportent du réconfort.
En 2022, votre restaurant a reçu une étoile au guide Michelin. Vous pensez que c'est mérité ?
Je pense que nous l'avons mérité. Pendant ces 8 ans, j'ai beaucoup travaillé pour ce succès. Ouvrir ce restaurant n'était pas facile, mais j'y suis arrivée grâce à mes efforts et le support de mes proches.
Et c'est quoi vos futurs projets ?
Je dirais que mon plus grand projet est de développer mon restaurant à l'international. J'aimerais ouvrir des établissements dans plusieurs pays pour que d'autres personnes puissent ressentir cette expérience chaleureuse.
Merci Casey. Nous passons maintenant à Cérine. Aujourd'hui, tu viens nous raconter ta chronique ainsi que ta propre expérience. Mais d'abord, que représente la maison en général ?
La maison est, comme pour la plupart des personnes, un endroit où on peut se retrouver dans un espace qui nous est familier. Cela peut être l'endroit où on a grandi, ou juste un lieu qui nous est cher émotionnellement et où nous passons de bons moments. Ce qui représente pour ma part ma maison est celle où j'ai passé mes vacances en bord de mer, en Espagne, près d'une île côtière, à 5 minutes de Valdemosa. Elle est pour moi tout ce que je représente, tout ce que j'aime. Elle serait bleue comme ma couleur préférée, positive comme mon état d'esprit, et l'atmosphère serait parfumée de plantes. Ce serait également un environnement parfait pour les animaux que j'apprécie, comme les félins, où ils pourraient très bien sortir dans la terrasse vue sur la mer. Je pense que la maison doit être le lieu que tout le monde devrait avoir comme un refuge sentimental et de protection. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre à propos de l'idée de chez soi et comment on obtient ce confort.
Merci beaucoup Cérine pour cette superbe chronique. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me.
I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me.
On vient d'écouter Homeward Bound de Simon et Garfunkel. J'ai toujours eu du mal avec ce nom, désolé. L'émission Comme à la maison continue sur Radio Campus Paris. Nous allons maintenant parler du livre Comment se sentir chez soi de Cérine. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre ?
J'ai écrit ce livre car ma maison m'a apporté beaucoup d'inspiration sur ce sujet et je voudrais faire rappeler de manière philosophique l'importance de tolérer son chez-soi avec ses proches.
Quel message voulais-tu faire passer au lecteur ?
Profitez de votre famille et de vos proches avant tout le reste.
De votre côté, Casey, qu'avez-vous pensé du livre ? Vous l'avez lu, n'est-ce pas ?
Oui, je l'ai lu. J'ai trouvé le sujet du livre très intéressant car il parle d'une des valeurs de mon restaurant. Ce livre m'a beaucoup inspiré et m'a fait réfléchir sur la perspective de mon chez-moi.
Il vous a apporté quelque chose d'utile ?
Non.
Ah d'accord.
C'est sympa. Eh bien, ce podcast est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour nous, ça a été super. Merci Casey pour toutes vos réponses et merci Cérine pour cet excellent livre. Un grand merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis pendant 3 jours, sans qui rien n'aurait été possible. Merci aussi à Ethan qui a assuré la régie. C'était Comme à la maison par Casey, Cérine, Antonin et Ouliana qui n'a malheureusement pas pu être présente pour cette session. À la prochaine sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Monde de Fadox sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis Capucine Roule, votre présentatrice, et vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de seconde 9 du lycée Lucie Aubrac à Courbevoie. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de ce que l'on peut faire et ressentir en dehors de chez soi. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Charlotte qui a créé l'association Un Petit Coup de Pouce pour la Planète. Nous accueillerons ensuite la chronique de Fadi, membre de l'association Attention, la faune et la flore est en danger. On continuera avec l'interview du jeune footballeur amateur de Courbevoie, Walid. Nous finirons cette émission avec la chronique de Laure sur le harcèlement de rue. C'est parti pour le monde de Fadox. Et tout de suite, c'est l'heure de la première interview. Bienvenue à notre journaliste Françoise Durand. Vous recevez Charlotte Branson-Limoux. Vous allez nous parler de la création de l'association Un Petit Coup de Pouce pour la Planète. Bonjour Charlotte, vous êtes présidente de l'association Un Petit Coup de Pouce pour la Planète. Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de cette association ?
Bonjour, oui, j'ai créé cette association en 2020 après avoir visionné un reportage sur la pollution en ville. Quelques mois plus tard, j'ai passé un appel sur les réseaux sociaux afin de trouver des bénévoles pour m'aider dans cette bataille.
Après cet appel, avez-vous eu des réponses ?
Oui, absolument. Les gens sont venus très nombreux et très enthousiastes.
Comment les gens font-ils pour s'inscrire ?
Alors pour s'inscrire, c'est très simple. Les personnes doivent juste donner un chèque de 50 euros par an pour financer nos projets et nos actions.
Justement, quelles actions avez-vous mis en place ?
Alors, il y a tout juste une semaine, nous sommes allés dans Paris ramasser les déchets pour rendre une ville propre. Cette semaine, 50 bénévoles étaient mobilisés.
Merci. Avez-vous des projets à mettre en place dans le futur ?
Oui, en ce moment, nous travaillons sur un projet de collecte de déchets et le but est de ramasser le plus de déchets en un temps record. Ce projet a pour objectif de motiver les gens à faire plus attention à leurs déchets et à leur faire prendre du nombre de déchets que l'on peut trouver en ville et ainsi faire baisser le taux de pollution.
Merci à toutes et tous. La suite arrive sur Le Monde de Fadox. Notre chroniqueur Fadi Djemali s'installe en studio. Comment ça va aujourd'hui ?
Très bien, et vous ?
Très bien, aujourd'hui tu viens nous parler de l'association dont tu es membre. Attention, la faune et la flore est en danger.
Donc bonjour, je suis Fadi et aujourd'hui, dans ma chronique, nous allons traiter le sujet des ours polaires, en voie de disparition. À cause du changement climatique, qui constitue la principale menace pesant sur les énormes ours polaires, si la fonte des glaces se poursuit au rythme actuel, la surface de son habitat sera contractée de plus de 40%. D'ici 2050, faisant diminuer sa population de plus de 2/3, c'est vraiment trop cruel. Carrément, là j'ai envie de pleurer. On peut y faire quelque chose en réduisant le réchauffement de la planète, protéger leurs habitats, chaque geste compte. Je veux vraiment sauver ces énormes ours polaires.
Merci Fadi Djemali. Et tout de suite, c'est l'heure de la deuxième interview. Bienvenue à notre journaliste Francine Castro. Vous recevez Walid Nassiri. Vous allez nous parler du footballeur amateur de Courbevoie, Walid.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Francine Castro, votre journaliste préférée. Aujourd'hui, je suis accompagnée du footballeur Walid Nassiri pour l'interviewer sur son quotidien de sportif. Bonjour Walid, vous jouez au foot, un sport d'extérieur par excellence. Comment avez-vous commencé ? Avez-vous joué en club ?
J'ai commencé dans le jardin de mon oncle Abdelkader. Et oui, j'ai commencé à jouer en club dès l'âge de 6 ans, au club de Neuilly.
Qu'est-ce que tu aimes dans le foot ?
Ce que j'aime dans le foot, c'est le contact du ballon, l'équipe, et que le foot à 11 se joue dehors.
Est-ce compliqué au quotidien de jouer en club ?
Pour moi, non, ce n'est pas compliqué au quotidien de jouer en club. Il faut avoir un bon esprit d'équipe, faire attention à son sommeil, faire attention à ce qu'on mange, mais c'est seulement du plaisir.
Pour finir, est-ce que tu aimerais continuer encore longtemps dans ce domaine ? Et aimerais-tu être professionnel ?
Bien sûr, j'aimerais continuer encore longtemps et j'aimerais devenir professionnel, car c'est mon rêve depuis que je suis tout petit.
Merci à toutes et tous, la suite arrive sur le monde de Fadox. On revient dans un instant, juste après la musique qu'écoute Walid avant ses entraînements. On vient d'écouter Abdelkader de Rachid Taha, Cheb Khaled et Fodel. L'émission Le Monde de Fadox continue sur Radio Campus Paris. Notre chroniqueuse Laure Cousseau s'installe en studio. Comment ça va aujourd'hui ?
Bah très bien, et toi Capucine ?
Super bien. Aujourd'hui, tu viens nous parler du harcèlement de rue.
Bonjour, aujourd'hui dans ma chronique, nous allons nous intéresser au harcèlement de rue. Tout d'abord, voici quelques chiffres. En 2023, près de 3450 infractions pour outrage sexiste et sexuel ont été enregistrées par la police et la gendarmerie nationale. La quasi-totalité des victimes sont des femmes âgées de moins de 30 ans. Elles représentent 88% des victimes. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement de rue. Ces infractions sont le plus souvent enregistrées dans les grandes villes. 60% des femmes avaient même adapté leur tenue pour éviter une situation à risque. Face à cette menace permanente, certaines femmes exposent ceux qui les harcèlent sur les réseaux sociaux. Certaines applications ont été développées comme Oumei. Cette application, créée par Pauline Vinderman, permet de localiser les endroits sûrs des environs. En France, il existe un numéro qui permet aux témoins d'une agression de prévenir la sécurité. Pour la SNCF, le système est effectif via le 3617. Si vous êtes victime de harcèlement de rue, que vous subissez des réflexions à connotation sexuelle ou sexiste, n'hésitez surtout pas à faire recours à la loi, vous êtes protégé.
Merci Laure Cousseau. C'est la fin de notre émission Le Monde de Fadox. Merci à Francine Castro, Françoise Durand, Laure Cousseau, Charlotte Branson-Limoux, Fadji Djemali et Walid Nassiri. Merci à Ethan S. pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le quart d'heure spatial sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis Valérian, votre présentateur dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de seconde 9 du lycée Lucie Aubrac. Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête spatiale. Et pour en parler, nous écouterons tout d'abord une chronique réalisée par Asma, Vers l'infini et au-delà. Ensuite, nous allons entendre un micro-trottoir réalisé à la place des Vosges par un de nos envoyés spéciaux. Et nous finirons l'émission avec une interview de deux invités, Madame Al-Jazi, spécialiste dans le domaine de l'astronomie, et Madame Sophia, membre d'une association pour la protection de l'environnement. C'est parti pour le quart d'heure spatial. Bonjour Asma, comment vas-tu ?
Bonjour Valérian, ça va super bien et toi ?
Super aussi. Aujourd'hui, tu viens nous faire part de ta chronique « Vers l'infini et au-delà » qui va nous recontextualiser sur la thématique de la conquête spatiale.
Tout à fait. Alors, la conquête spatiale apparaît dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre idéologique qui débute en 1947 et qui prend fin en 1989. Elle oppose le bloc ouest au bloc est. Durant cette période, la concurrence était à son paroxysme dans plusieurs domaines, comme le sport, les bandes dessinées, le cinéma ou encore la fameuse conquête spatiale. En 1957, après l'envoi du satellite Sputnik 1, l'URSS envoie donc le satellite Sputnik 2, transportant la chaîne Laika. Mais malheureusement, elle ne survit que 7 jours. Cela déclenche officiellement le début de la conquête spatiale. En 1961, la course à l'espace s'intensifie. Les soviétiques envoient avec succès Yuri Gagarin, le premier homme à aller dans l'espace. Puis, en 1962, ils envoient Valentina Tereshkova, qui est donc la première femme à aller dans l'espace. Mais les États-Unis ne restent pas sans réponse et envoient, en 1969, Neil Armstrong, qui sera donc le premier homme à marcher sur la Lune. Il est également l'auteur de la célèbre phrase que nous connaissons tous « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». D'ailleurs Valérian, est-ce que tu savais que Armstrong avait emporté son ours en peluche avec lui lors de cette mission ?
Pas du tout, tu viens de m'apprendre quelque chose.
Ah bah, tant mieux. Enfin bref, la guerre froide se termine, mais la conquête spatiale continue. Certains cinéastes ont pris cette période historique comme inspiration pour leurs films, ce qui a donné des chefs-d'œuvre comme « Gravity »,« Salut 7 », l'Odyssée de l'espace ou encore Interstellar. Et parfois, la réalité dépasse la fiction. L'exemple typique, c'est le projet SpaceX d'Elon Musk qui consisterait à envoyer l'humanité vivre sur Mars dans un futur proche. On peut d'ailleurs penser qu'il s'est inspiré de la célèbre phrase du scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais l'humanité ne peut rester dans le berceau éternellement. »
Merci beaucoup Asma pour ta chronique. Nous allons maintenant écouter un micro-trottoir où l'on a posé la question suivante. Que pensez-vous de la conquête spatiale ?
Well, it's very, definitely very futuristic, and for me, it seems very much out there. I don't have a relation to it, but it's also kind of scary, because you don't know what's out there in the space, and you don't know what you'll meet. So, Yeah, it's definitely something I await with excitement.
Je sais pas, j'ai pas trop d'avis à propos de ça.
So I believe that it's important to dedicate resources to space exploration. And I was alive when the first man went on the moon, and it was an incredible experience. And I believe that resources need to be dedicated to space exploration.
Bah, c'est super stylé, mais par exemple Elon Musk qui met ses ribambelles de satellites et on les voit depuis la Terre, franchement, arrête, ça pollue le ciel. Laisse les étoiles tranquilles, on a l'impression que c'est des étoiles alors qu'en fait c'est des satellites. Donc en soi, je trouve ça super et tout, découvrir l'espace, mais c'est hyper dommage de laisser des débris de satellites et tout dans l'espace, quoi.
Ah, je trouve ça merveilleux. Maintenant, est-ce que ça sera accessible à tout le monde? Je ne le crois pas.
C'est vrai que de penser à la conquête spatiale, pour moi, c'est vraiment un truc secondaire. Après, ça peut être intéressant si on découvre des nouveaux minéraux, des choses qu'on n'a pas sur Terre, forcément.
C'est une chance merveilleuse.
On a remarqué avec ce micro-trottoir que la plupart des gens sont pour la conquête spatiale, mais ne maîtrisent pas très bien le sujet. Nous nous retrouvons après une petite pause musicale pour l'interview de nos invités.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Nous venons d'écouter Rocketman d'Elton John. L'émission Le Quart d'heure spatial continue sur Radio Campus Paris. Nous allons maintenant recevoir Madame Al-Jazi, spécialiste dans le domaine de l'astronomie, et Madame Sophia, membre d'une association pour la protection de l'environnement. Bonjour Al-Jazi et Sophia, comment allez-vous ?
Bah super, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui.
Et moi également.
Madame Al-Jazi, j'ai quelques questions à vous poser. Vous qui êtes spécialiste dans le domaine, dites-moi, que peut nous apporter la conquête spatiale ?
Alors, aujourd'hui, la raréfaction d'éléments nécessaires à l'industrie pourrait nous inciter à chercher ailleurs les ressources et à envisager l'exploitation minière de la Lune, des astéroïdes ou d'autres corps du système solaire. Cela nous pousserait au développement commercial de l'industrie spatiale. Par exemple, l'astéroïde 16, découvert en 1852, nommé Psyché, qui contient 50% de métal, soit des millions d'années de notre production annuelle mondiale. Il y a également d'autres astéroïdes riches en éléments très rares sur Terre, comme le platine, l'iridium, l'osmium ou le palladium. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication d'objets comme les pots catalytiques, les stimulateurs cardiaques, les implants médicaux et surtout les composants des électroniques modernes. La rareté de ces ressources et donc leur prix rendrait l'idée d'aller les miner dans l'espace bien moins absurde qu'auparavant. La Lune, elle, n'a pas de métaux rares à exploiter, mais elle a mieux, l'or bleu. En effet, des sondes d'exploration scientifique américaines et indiennes ont confirmé la présence d'eau sur presque toute la surface de la Lune. De plus, elle contient également de l'hélium-3. La conquête de l'espace pourrait donc nous fournir des ressources en eau, en minerais et en gaz, ce qui serait révolutionnaire.
Mais alors, pouvons-nous extraire impunément les ressources de d'autres corps célestes ?
Eh bien non. Il nous est impossible pour l'instant d'user de ces ressources à cause du traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, qui interdit explicitement aux nations de revendiquer la propriété d'un corps céleste. Mais ce texte a été écrit en temps de guerre froide, et ces restrictions pourront donc éventuellement changer dans le futur.
Merci Madame Al-Jazi pour vos informations. Et vous Madame Sophia, qu'en pensez-vous ?
Pour moi, la conquête spatiale, c'est fantastique. Cela nous permet de découvrir le monde qui entoure notre planète. Ce monde rempli d'énigmes, de questions, d'angoisses, d'étonnements, et bien plus encore. C'est un défi pour les gouvernements. Nous, la population, on se pose beaucoup de questions. Nous avons beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Souvent, on n'est pas très informé sur ce thème. Et ce genre d'émissions sont, selon mon humble avis, sont vraiment intéressants. La conquête spatiale, ce sujet si vaste. Je ne suis peut-être pas la plus légitime pour en parler, mais ce sujet me passionne, surtout sur son côté environnemental. Et oui, je suis très engagée pour la cause. Je suis moi-même dans une association et je rêve d'en fonder une.
Mais donc, en quoi est-ce mauvais pour l'environnement ?
Pour vous donner un ordre d'idée, un vol de 10 minutes, c'est pas loin de 80 tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère juste pour propulser la fusée. C'est juste énorme ! C'est plus de 6 fois la quantité de CO2 émise par un Français sur une année entière. N'oublions pas de rajouter toutes les émissions émises, la construction des fusées, des infrastructures, production des carburants. Et cela sur des années. C'est donc des années de travail et d'impact environnementaux pour un seul, et oui, un seul vol spatial. Certes, l'industrie spatiale ne représente pas une part importante des émissions et de pollution globale comparée aux pollutions générées par le trafic automobile ou même la production agricole qui concerne tout le monde en continu. L'industrie spatiale concerne pas tout le monde. Des milliardaires astronautes veulent développer le secteur du tourisme spatial. Par exemple, des entreprises comme Virgin Galactic prévoit de proposer d'ici quelques années 400 vols spatiaux par an, accessibles qu'aux plus riches. Ce qui, là, poserait un énorme problème. Aujourd'hui, on tente de réduire les vols en avion. Pourquoi ferons-nous des vols en fusée pour une infime partie de la population ?
Merci Madame Sophia pour vos informations. C'est la fin de notre émission Le quart d'heure spatial. Merci à Asma, Al-Jazi et Sophia pour votre présence sur ce plateau. Et merci à Ethan, notre réalisateur, pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.